Filles en liberté! Hey, j'avais pensé que cette semaine, on pourrait changer le titre de notre émission. On pourrait appeler ça « Deux filles folles ». Sais-tu pourquoi? Non, mais c'est parce qu'on se fait tellement traiter de folles que je me suis dit que on pourrait agir en folle pour une fois dans une année.
Ben, vas-y. Ben, je voulais juste te dire par rapport à ça, on n'était pas si folle que ça. La semaine passée, avec l'invité qu'on a eu, là, ouais. Je regarde la politique au Québec, il me semble qu'on n'est pas, on n'était pas si folle que ça, avec tout ce qui se passe. Hein?
J'ai hâte de voir. Sérieusement, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, tu sais, t'as plein de spéculations, t'as plein de gens qui vont dire à peu près n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un référendum. Il y a même eu une date qui a été avancée pour le référendum. Ce serait le 22 juin 2015. Je sais pas si t'avais entendu. Ouais.
Ah oui, aussitôt que ça. Mon Dieu, j'avais pas. Moi, je vais te dire quelque chose. La semaine passée, on avait eu notre invité qui partageait certaines de nos idées, mais une des choses qu'il partage, que nous, on est plus ou moins d'accord, c'était justement ça, l'indépendance du Québec, puis le fait que le Québec peut devenir souverain très rapidement. Puis lui, il m'avait comme avancé hors micro que, justement, d'ici quelques temps, voire quelques jours, il allait avoir un pion ou un joueur qui allait tout transformer les élections de cette année, et qui allait permettre, d'ici au moins 4 ans, lui m'a dit 4 ans, qu'on puisse avoir droit à notre vrai référendum qui va nous donner enfin notre pays. Puis c'est pour ça que je te dis, on n'était pas si folle que ça. On a invité quelqu'un qui, finalement... Puis là, depuis que j'ai discuté avec cette personne-là, je réalise quelque chose. C'est que ça fait du sens en mots, t'as dit. Même si je veux pas le voir, puis je suis tout à fait à l'opposé, l'arrivée, puis on fait référence à l'arrivée de PKP en politique, laisse-moi dire, ça va changer les choses. Hein? Puis le référendum en 2015, je sais pas si ça va réellement arriver. Est-ce que tu y penses réellement, toi?
Moi, je suis pas mal certaine que oui, il va en avoir. C'est sûr qu'il va y avoir un référendum. Puis c'est sûr que de savoir quand est-ce qu'il va se passer, j'ai comme l'impression qu'il faut que ce soit le plus tôt possible, pour qu'il n'y ait pas le temps de se mettre les pieds dans les plats, tu sais. Il faut que ce soit quand même assez rapide. Puis, ben, le 22 juin, je trouvais ça un peu spécial. Puis encore là, c'est pas une nouvelle là, qui est nécessairement juste et vraie, là. C'est une j'ai vu cette date-là. Puis, supposément que ça viendrait de l'environnement de notre charmant PKP. Je dis toujours, j'ai toujours l'impression, je vais dire PFK, je sais pas pourquoi.
Non, mais tu comprends, moi c'est pour ça, puis moi depuis lundi, là, depuis là que c'est parti, là, puis tout le monde panique, moi j'arrête pas de taquiner nos chers amis de la droite québécoise, parce que je pense que celle-là, ils l'attendaient pas. Ils l'attendaient pas du tout venir. Et là, maintenant, ils se ramassent dans une situation où est-ce qu'ils savent plus où bouger, parce qu'ils savent plus positionner PKP, justement. Puis finalement, moi, je le dis ouvertement, il vous a mangé la lune sur le dos. Il vous a eu comme ça. Puis maintenant, vous êtes fourré. Puis je sais qu'il y a des gens, là, en ce moment, je me fais justement crier des noms puis me dire que
folle.
Je suis je suis contre le mouvement de la droite québécoise, mais j'ai jamais été de cette mouvance de la droite québécoise, là. Puis ça me fait rire parce que, justement, il aurait tellement fallu partir, une mouvance de droite. Puis enlève le mot droit de mouvement libertarienne il y a longtemps au Québec. Parce que avec ça, on aurait peut-être pu réussir à changer quoi que ce soit. Mais là, la façon que ça se voit, là, le PQ est en train de carrément se centraliser vers... C'est ça, comme il va vers le centre droit. Et tous les autres partis, ils ont tous perdu la boussole. Là. Ils sont tous désorientés. Puis tu regardes les messages, là, tu sais, à gauche, à droite, tous les jours, ils ont des nouvelles, là, on promet ci, on promet ça. Mais tu vois que c'est comme vide. Puis je vous garantis, le 7 avril, une victoire du Parti québécois.
Majoritaire. Ouais.
Je suis convaincue.
Et tu sais quoi? Me dire qu'est-ce que c'est. Hier, on m'a envoyé un message. Me disant, écoute, Julie, tu veux-tu, s'il te plaît, mettre sur ta page un vidéo qu'on ne peut pas sortir? mais j'ai pas le droit de dire d'où ça vient, OK? Ça vient de l'environnement, c'est politique, d'un parti politique, OK? Des gens qui sont, bon. On me dit, on ne peut pas, nous, le sortir. Est-ce que tu peux le sortir pour nous? Ben là, j'ai dit, minute, là, ça dépend c'est quoi le genre de vidéo. J'avais aucune espèce d'idée quel genre de vidéo que c'était, là. J'avais vraiment l'impression que ça pourrait être très grave. Donc, je reçois ça. Puis, on me dit vraiment, tu dois déliter toute preuve d'envoi, de quoi que ce soit. Faut pas que personne sache d'où ça sort.
Wow! OK! Là, c'est top secret. En quoi consistait ces vidéos-là?
Ben, je l'ai mis sur ma page. Tu l'as pas vu?
OK.
Ben, c'est sur Pierre-Carl Péladeau, en fait. C'est une parodie de Vidéotron. Okay. Tu iras la voir, là. C'est un petit peu comique, là. Mais puis dans le fond, ce que ça dit que bon, faudrait la voir là au complet. Là. Je m'en rappelle pas à 100%, mais écoute, la personne qui me l'a envoyé m'a dit que ils avaient fait un pari que ça arriverait aux oreilles du parti en une heure. Puis j'ai la personne a gagné, donc c'est arrivé en moins d'une heure, juste en le mettant sur ma page, sur ma page et sur Twitter, j'y avais plein de monde qui partageait, puis tu sais, tu peux suivre ça, hein, c'est qui partage, puis tout ça, ça s'est propagé mm-hmm. comme une traînée de poudre, et ça s'est rendu à la bonne personne en moins d'une heure. Donc, tu vois, mais il a fallu, on pouvait pas le sortir, il a fallu qu'on vienne, bon, probablement parce que moi, je suis pas, j'ai comme l'impression que c'est des gens que, si ce sont des journalistes, tu sais, chaque journaliste est quasiment rattaché à Pierre-Carl Péladeau, by the way.
Oui. Ben, puis c'est ça aussi, quand je dis la droite a s'est fourrée, c'est que pendant longtemps, puis quand, il est pas fou, Pierre Péladeau. Moi, je ne l'ai pas dans mon estime, mais je peux considérer que cet homme-là est très, très intelligent. Et il a aussi l'intelligence, et ça, je l'ai entendu sur une autre show de radio, c'est qu'il avait il a l'intelligence de s'entourer de personnes plus fortes que lui. Et c'est ça qu'il fait depuis très longtemps. Et que je veux dire au départ, c'est qu'il s'est acquéri la droite. Économique du Québec. Combien de blogs ont été diffusés sur le Journal de Montréal qui venaient de la droite économique? Combien de personnes ont participé là à plein de choses qui faisaient référence, qui étaient en lien soit avec le Journal de Montréal ou quoi que ce soit? Il y avait comme une connexion avec Péladeau et la droite québécoise. Et soudainement, pour ça, ou de façon surprenante pour certains, ben il servirait de bord, puis à place d'aller rejoindre la droite économique québécoise, ben il a décidé de rejoindre le PQ. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer le PQ en droite économique. Et c'est là que je dis la droite, c'est carrément fourré, parce que eux autres se disaient la seule identité de la droite. Puis, c'est fini. Et là, moi, je regarde, puis entre autres, c'est le Parti conservateur du Québec, et il ne sait plus où aller en ce moment. J'étais plusieurs fois, malgré que on m'a retiré l'accès de communiquer ou d'écrire quoi que ce soit sur la page officielle du Parti conservateur du Québec, je vais souvent regarder ce qui se passe, et c'est comme un criquet, là, dans le vide, là, t'entends, il n'y a rien de mentionné par rapport à PCK. Il y a on nie la nouvelle, on nie même l'événement comme tel. J'ai même essayé de parler à plusieurs personnes sur la
PCK,
PCK. PCK, PCQ, PCK, whatever. Mais tu comprends. Pierre-Carl Péladeau, on va dire. Non, mais ce que je veux dire au bout du compte, c'est que on refuse de reconnaître qu'ils se sont fait carrément manger la laine sur le dos, et ça, c'est ils sont morts maintenant. Et il continue à proclamer que le PQ a plus de crédibilité, le PQ rentrera pas au pouvoir. J'ai aucune idée qu'il va rentrer au pouvoir à part le PQ.
Non, à moins qu'il y ait un tournant, là, je sais pas ce qui pourrait se produire en un mois, mais si on regarde ce qui se produit, et les gens le savent, les gens sont très inquiets. Puis j'en ai, puis je parlais avec des membres de ma famille qui sont pas trop vers le PQ, mais on se dit, ben oui, mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voter pour qui? La CAQ? Non, c'est non, ça nous...
La CAQ
est morte.
Ça, moi,
les libéraux aussi.
La façon que je vois ça, là, le 7 avril, c'est que le PQ va rentrer majoritaire. Québec solitaire va ramasser tous les extrémistes de gauche qui étaient parmi les gens du PQ. Qu'est-ce qui va arriver après?
C'est drôle, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit Québec solitaire.
Solitaire.
Non, mais c'est parce que ça me fait, c'est ça pareil. Ils sont solitaires. Oui.
Mais, il va peut-être devenir deuxième ou trois. Non, peut-être pas deuxième, mais troisième. CAQ ne sera plus là aux prochaines élections. Je suis prête à mettre ma main au feu parce que les droitistes économistes, nationalistes, vont se tourner vers le PQ. Et l'autre vont s'écraser. Le PCQ va hautement monter. Il y aura
tu vois, les gagnants de cette l'élection, c'est le PQ. Je regardais t'as-tu regardé les pancartes de Québec solidaire avec la tarte?
Oui, j'ai vu ça avec.
Qu'une belle tarte. On est comme à la maternelle, il faut partager. Hein? Puis, on va mesurer le point de tarte parce que faut que tu aies la même chose que moi. Tu vois, c'est comme, non, ça accroche pas. Puis, tu as de l'autre côté un Adrien Pouliot de l'autre extrême qui dit, ben moi, écoute, moi, je veux être le Amir Kadir de la droite. Allô?
J'ai eu une bonne conversation justement à ce sujet-là. Et en ce moment, ben justement, je me fais beaucoup plus attaqué par la droite québécoise que par la gauche, malgré le fait que j'échange d'un bord puis de l'autre. Parce que justement, je leur ai dit, vous serez jamais, c'est pas en ayant un message comme vous avez en ce moment que vous serez un Amir Kadir. L'Amir Kadir, c'est l'extrémiste de l'idéologie socialiste. Puis il y en a qui me disaient, oui, mais il faut être en parallèle avec l'échiquier politique québécois. Puis l'échiquier politique québécois est de gauche. Je dis, non. Amir Kadir ne s'est jamais positionné par rapport à l'échiquier politique. L'échiquier politique s'est positionné par rapport au parti comme tel. C'est comme si on est tourné encore plus vers la gauche. L'échiquier politique québécois s'est tourné encore plus vers la gauche à cause de Québec solidaire, mais c'est pas le contraire. Et si le PCQ avait fait la même chose, mais de l'autre côté, au point de vue des valeurs conservatrices libertariennes, peut-être qu'on aurait pu redresser le bateau puis retourner vers le centre, au point de vue de l'échiquier du Québec. Mais on a voulu jouer la carte contraire puis dire on va s'adapter à l'échiquier politique puis on va se centrer, mais un peu plus à droite. Comme ça, on va avoir l'air des extrémistes parce que par rapport à Québec solidaire qui est à l'autre pôle, bien, on est des extrémistes. Bien, écoutez, les extrémistes centristes, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Puis je suis désolée, le PCQ avait une chance inouïe au cours des dernières années, les deux dernières années, de monter puis de créer vraiment là, un programme qui sortait de cette espèce de système de la social-démocratie puis de créer quelque chose de totalement différent. Puis quitte à se faire traiter de tous les termes, là, des radicaux, des extrémistes, des terroristes et tout ça, bien, laisse-moi dire, il y aurait peut-être eu une visibilité plus importante et au bout du compte, ils auraient peut-être été capables de faire passer leur message beaucoup plus efficacement.
Faut que tu fasses attention aussi quand t'arrives au Québec avec un chef qui a énormément d'argent, puis comme j'ai absolument aucun problème avec les gens qui ont de l'argent, mais je suis pas mal tout seul dans ma gang, OK? Parce que tu le sais que les Québécois ont tendance à pas vraiment avoir de sympathie pour les gens qui ont de l'argent, hein? Bon. Donc, d'arriver avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, en plus quelqu'un qui a hérité de l'argent de son père, on dit toujours, ah bon, c'est ça, il part mieux dans la vie parce que il a hérité de son père. Ben, tu sais, ça te donne pas c'est pas la sympathie, tu sais, c'est pas ce que t'as de besoin pour partir un parti qui va être vu comme étant extrémiste. Parce que, bon, oui, la droite au Québec, c'est très marginal. Pour nous, on dirait qu'on le voit pas parce que on se tient quand même avec des gens qui sont plus de notre idéologie. Mais si tu vas sur le terrain, puis que tu vas cogner aux portes, tu vas t'apercevoir que la majorité des gens sont beaucoup plus gauchistes ou pas qu'ils sont vraiment par principe, ils sont ils sont nés comme mais ça, tu sais.
Ils sont nés comme ça, exactement, ils sont nés comme ça. On est nés comme ça. Ouais. Même toi et moi, on était nés comme ça. Il a fallu qu'on aille un petit nettoyage.
Ben, tu posais des questions, c'est parce que c'est ça aussi, c'est parce que les gens se posent pas de questions, tu sais, t'as comme l'impression que c'est comme ça, c'est comme ça. Tu sais, je veux dire, on vit avec, tu sais, c'est comme si demain on disait que, je sais pas moi, la Terre tourne pas vraiment autour du Soleil. Tu sais, on a tout le temps eu cette impression-là, c'est ce qu'on nous enseigner, ben c'est ça qui est ça. Fait que si ça arrive puis ça change, ben tu vas dire, ah ben, ceux qui vont dire le contraire, ben, vont être fous. Puis éventuellement, tu vas aller chercher de l'information puis tu vas changer ton idée. Mais, tu sais, de base, mes parents étaient péquistes. Mes parents étaient les méchants Anglais. Moi, je me rappelle de tout ça. Tu sais, c'était imprégné dans moi que les Anglais nous haïssaient, nous, les francophones. On était des victimes des Anglais. Tu sais, j'ai tout le temps vécu comme ça. Fait que c'est sûr que ça a été long pour moi d'accepter puis de comprendre que c'était vraiment faux puis que je trouve ça dommage, justement, d'avoir passé tout ce temps-là de ma vie à croire quelque chose qui était complètement faux. Tu sais, quand tu vas ailleurs, premièrement, ils en ont rien à foutre, là. Ils en ont vraiment rien à foutre, surtout les Américains du Québec. Oui. Tu sais, je veux dire, j'essayais d'expliquer ce matin à un ami c'était quoi la situation au Québec avec la souveraineté puis tout ça. Puis je voyais dans ses yeux que c'était comme, mais voyons donc, c'est quoi, là? C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Oui.
Mais moi, ce que je vois surtout, là, puis comme tu dis, on était tous dans le même moule, puis la même pensée, puis c'est qu'on était dans un paradigme.
Ouais.
Et les Québécois sont dans le même paradigme, le paradigme d'un mouvement socialiste démocratique, la social-démocratie, puis tout le monde passe, tout le monde vit là-dedans, dans cette espèce de bulle ou de sphère, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on est rendu comme au bout de cette réalité-là, mais sont toujours en train de nier l'existence de d'autres choses à l'extérieur. Puis les seules solutions ne peuvent venir que dans ce paradigme.
Ouais.
C'est un terme, là, on entend ça des fois, là, le changement de paradigme, tout ça. Mais tant qu'il n'y aura pas un changement de paradigme au Québec, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Et la seule chose, c'est qu'on va toujours se ramasser avec le même genre de problèmes qui vont se répéter à fur et à mesure. Et même l'arrivée d'un Carpelado qui souhaite l'indépendance du Québec, qui risque peut-être même de l'avoir, ne changera pas la vision québécoise. Demain matin, là, le Québec devient indépendant, puis on commence à développer nos affaires. La structure de base du système québécois ne changera pas. Ça va être toujours une structure où est-ce que le gouvernement va rester excessivement contrôlant, très dominant, très interventionniste, et le peuple va être obligé de se soumettre à ça. Et même si le Québec devient très, très riche de ses richesses, parce que je le sais qu'ils sont on est très riche des richesses, c'est en énergie, en n'importe quoi, il y a une richesse incroyable. Et
même au niveau des individus, et puis si en plus t'embarques le fait que tu te retrouves avec des gens qui pourraient potentiellement être bilingue. Je veux dire, c'est très bon économiquement.
Mais Texans, ils vont castrer ça, ils vont empêcher ça, non, et ça va continuer. Cette espèce de barrière psychologique va être maintenue, même si on devient indépendant, puis même si on aura pu à dire, hey, nos ennemis sont plus nos ennemis parce qu'on n'est plus avec eux, on est divorcés de notre ennemi. on va continuer à se dire, ben, il faut protéger notre frontière. Alors, on continue à maintenir une langue officielle, le français, sans, et vois-tu, on va finir par se créer une espèce de petite bulle qui va permettre seulement un nombre restreint d'individus de s'enrichir. Et de plus en plus de gens vont s'appauvrir et se faire drainer dans tout ça. Puis au bout du compte, ben moi, je ne vois pas en tant que personne qui prend la liberté d'expression, la liberté individuelle, une place pour s'épanouir.
Non.
Puis ça me fait vraiment peur. Moi, c'est comme... Puis le plus drôle dans ça, j'ai parlé avec des proches il n'y a pas longtemps, c'est avant-hier ou hier, c'est avant-hier, concernant les élections. Et vois-tu sur quoi on se bat en ce moment et sur quoi on discute? On se bat encore sur la fameuse charte. Et c'est ça qui va déterminer, c'est ça que le peuple va... C'est à partir de cette valeur-là qu'ils vont décider où est-ce qu'ils vont mettre leur petit crochet. Pour plusieurs, ça va être ça. Et je trouve ça d'une tristesse parce que c'était juste une façon d'endormir le peuple, de créer une zizanie, là. Puis là, en ce moment, là, cette charte-là est beaucoup plus acceptée que démonisée.
Oui. Probablement que la charte va passer. Il y a des gens qui vont, quitter le Québec parce que ça ne correspondra plus à leurs valeurs. Et dans le fond, c'est exactement ce que le PQ veut pour pouvoir éventuellement. C'est clair pour moi là, tu sais, j'essaie pas de trouver des petites bébites là, mais j'ai l'impression vraiment que le but de la charte c'était de diviser la population dans le but de garder seulement ce qu'on veut. Pourquoi? Pour faire un pays dans le fond.
Exactement. Et quitter le Québec, ça va être peut-être l'option ou la seule option en ce moment à considérer parce que il y a aucun notre parti qui va être capable de renverser cette tendance-là. En ce moment, je suis très, très, très pessimiste par rapport à l'avenir du Québec. Et comme je vous disais, moi, je suis convaincue que le 7 avril, on aura le droit à une victoire très, très, très imposante du Parti québécois. PKC.
PKP.
PKP, je veux te dire. Pierre-Carl Péladeau. Moi, c'est le cas qui m'agace. Mais Pierre-Carl Péladeau va rentrer haut la main. Et par la suite, ben, ça va juste à voir quand est-ce que le show du référendum va commencer. Puis pour moi, ben écoute, c'est ça. C'est la seule la résultante que je vois venir. Par chance, de notre côté, aux États-Unis, ben il y a peut-être de l'espoir. Je sais pas si tu as entendu dernièrement, là, mais la semaine passée, on a justement eu... un congrès des conservateurs. À chaque année, on a toujours droit à une rencontre. Ça s'appelle The Conservative Political Action Conference. Puis c'est où qu'on regroupe toutes les personnes connues qui se disent conservateurs, qui viennent discuter des débats politiques. Puis entre autres, ben, il y avait ton fameux gouverneur qui est venu, Perry. Il y a eu plusieurs autres personnes. Il y en a d'autres qui sont venus, puis tu te demandes encore qu'est-ce qu'ils font là. Il y avait Chris Christie, mm-hmm. entre autres. Il y avait Ron Paul. Il y avait Ted Cruz, bien sûr. Et plein d'autres personnes. Même, il y a des gens qui ne sont plus ou moins connus dans le monde de la politique comme tel, mais qui sont bien connus dans le milieu conservateur. Il y a, entre autres, un médecin, un neurologiste. C'est Ben Carson. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais... c'est un des premiers spécialistes à avoir démontré qu'Obamacare n'avait aucun sens. Et comme par hasard, Ben Carson, pour ceux qui le savent pas, ben ça se trouve être un Africain-Américain. Fait que déjà, la carte du racisme ne peut pas...
Ne fonctionne pas, mais c'est ça. Mais ils sont allés chercher des gens comme ça, justement, pour avoir le droit de le dire d'une certaine façon, c'est-à-dire de chercher des gens du même groupe qui vont pouvoir dire les vraies affaires sans se faire attaquer sur le fait qu'ils sont racistes ou pas. Mais les résultats de cette conférence-là?
Ben c'est parce que comme à chaque année, il y a toujours on appelle ça un straw poll. Ça veut dire c'est un vote non formel qui se fait à chaque conclusion de cet événement-là. Et pour la deuxième fois, Ben, c'est Rand Paul qui a gagné. Mm-hmm. Puis cette fois-ci, il a gagné à 31% des votes. Puis, je veux dire, c'est une très bonne victoire parce que quand même, on parle de lui qui a gagné à 31%. Et le deuxième, c'était Ted Cruz qui a gagné à 11%, suivi de Ben Carson, le fameux spécialiste au point de vue de la santé et conservateur, est arrivé à 9%. Et très, très, très loin après, ben, il y a eu les fameux... je pense que par la suite, il y a eu Rick Perry qui a été nommé, il y a eu Mike Huckabee qui a suivi. Mais par la suite, là, ça, plus ça s'enlevait, diluait ou ça s'enlevait vers le loin, là... c'est les néocons qui rentraient. Chris Christie, je pense qu'il est arrivé 8e. Il y a même le frère à Bush qui a été nommé, mais je pense qu'il y a eu 2-3 points. Fait que il y a une tendance aux États-Unis
libertarienne.
Libertarienne, conservatrice, constitutionnaliste, nomme-les tous. Mais on essaye, je constate que là, il y a une tendance à se détacher de l'espèce de nanny state, de cette espèce de gouvernement étatique conservateur. Là, on veut vraiment ne plus avoir affaire à ça. Puis il y a des personnages comme Ted Cruz puis Rand Paul qui commencent à prendre de plus en plus de poids. J'espère juste, parce que tu sais que cette réunion-là n'est pas associée directement au Parti républicain. J'espère juste que ça a été un écho et on entend un écho qui va se transmettre ou qui va passer les frontières, les murs et que ça va passer, ça va se faire comprendre chez les républicains parce que il y a encore de la chicane qui se passe à l'intérieur.
C'est n'importe qui suit les nouvelles, qui suit un peu ce qui se passe même au niveau mondial, s'aperçoivent que une autre personne aussi qui est plus vraiment active, mais Sarah Palin, qui est, oui, elle est conservateur, mais c'est une membre du Tea Party, donc elle est un peu libertarienne, on pourrait dire. Avec ce qui s'est passé avec la Russie, tu sais, l'Ukraine, elle avait dit en 2008 que, je sais pas si t'avais suivi ça, elle avait dit en 2008 que si Obama était au pouvoir, la Russie attaquerait l'Ukraine et bon, on l'avait traité de folle, puis bon, on l'a traité de tous les noms, elle. Ben, écoute, elle avait un peu raison. Et donc, on commence à voir que ce que ces gens-là disaient ou disent encore, c'est pas fou. C'est carrément pas fou. Puis on va en avoir plein d'autres exemples qui s'en viennent, là.
Ben oui, tout à fait. Ça, on parle tout ce qui a été accompli, je pense, depuis 2008, là. Tout ce qu'on essaie de nous faire croire commence de plus en plus à tomber. Et il y a de plus en plus de groupes qui s'unissent et qui vont dans toutes les facettes de la société américaine, qui se lèvent et disent « assez, c'est assez ». Même au point de vue d'Hollywood, je regardais un article qui a passé dernièrement. En ce moment, on est en train de faire deux films concernant Benghazi pour vous démontrer ce qui est arrivé pour de vrai. Et là, vois-tu, les chouchous de la politique libérale ou progressive commence un peu à s'appauvrir, même à Hollywood, parce que là, on commence à vouloir éveiller les gens. T'as de plus en plus d'acteurs qui se lèvent et disent « Hey, ça va faire, là, on va arrêter, on veut savoir, on veut comprendre ce qui s'est passé dans telle situation. »
Ben, c'est parce que j'ai l'impression que ce que les gens commencent à comprendre, c'est que on était divisés parce que d'un côté, on n'aimait pas le côté républicain, c'est-à-dire conservateur, plus moral. Moins moral, puis dictateur, puis d'être très, très interventionniste avec des conflits mondiaux, toujours vouloir, tu sais, on n'aimait pas ce côté-là, donc on se situait plus de l'autre bord, on allait vers la gauche, plus démocrate, démocrate, démocratie, ça sonne bien, mais là, on s'aperçoit qu'il existe autre chose, là, non, il y a pas, il y a quelque chose entre les deux. Moi, je sais pas si on peut dire entre les deux, parce que quand tu dis entre les deux, les gens ont l'impression que c'est vers le centre. Non, c'est carrément à l'opposé. C'est de revenir à la base, de juste enlever l'état de nos vies. Puis il y a plein de monde des deux côtés qui s'en rendent compte puis qui vont finir par se joindre à la mouvance libertarienne, même si ça a une drôle de connotation maintenant parce que ça a été, écoute, ça a été sali, le mot libertarien a été sali de tout bord, tout côté, mais c'est ces aptitudes-là, c'est cette façon de se prendre en main puis tu sais, écoute, moi j'ai pas besoin de toi, je peux facilement moi-même faire ma chance, je suis capable de partir de rien puis de bâtir quelque chose sans l'État puis sans me faire dire par Obama que you didn't do it.
Ouais, non, mais c'est non, tout à fait. Puis donc je vais dire, j'ai beaucoup d'espoir avec bon, je suis naïve peut-être, mais j'ai beaucoup plus, je dirais pas beaucoup d'espoir, mais j'ai beaucoup plus d'espoir que quelque chose de concret va se faire parce qu'il y a un côté qui est très très évident aux États-Unis qu'on ne retrouve presque pas chez nos compatriotes québécois, c'est de toujours agir à contre-courant quand il y a quelque chose qui déplaît. Il y a toujours un petit groupe de révolutionnaires. Ouais. On dirait qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour défendre les intérêts des gens qui sont endormis. Je regarde à chaque fois qu'il y a quelque chose qui part, il y a tout le temps un groupe qui va se lever pour dénoncer ça, puis taper sur les doigts de ces fameux politiciens. Et ça, c'est inexistant, et du moins jusqu'à l'instant, au Québec. Et je pense qu'il va falloir qu'on frappe, ça frappe le mur, ou qu'il y a quelque chose d'assez drastique qui fasse pour qu'il y ait un éveil. Moi, je voulais juste aussi parler d'un petit, une petite parenthèse comme ça, parce que là, on a passé, la semaine passée, samedi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé le samedi dernier? C'était le 8 mars.
T'as-tu reçu des fleurs? 8 mars.
Ah non! Hey, moi j'attendais mon chocolat, mes fleurs, puis que mes enfants me fassent une pédicure.
Peux-tu te dire, hein? Ben oui, parce que toi, t'as juste des gars, hein? T'es la seule femme.
Puis vénérer ma journée internationale. Le pire dans tout ça, c'est une petite parenthèse, j'ai mon père qui est né le 8 mars.
Oh.
Et mon père, c'est pas l'opposé, mais c'est une personne qui est carrément à, tu sais, qui est vieux jeu, qui est très conservateur, qui est macho à la limite, qui va tout à fait à l'opposé de l'image du féminisme. Et pauvre homme, à chaque année, on le taquine parce que...
Journée internationale.
Journée internationale.
Et by the way, bonne fête. Non, mais c'est drôle que tu dises ça parce que moi, à chaque année, ben là, je pense que c'est rendu, là, ben c'est ça, tu sais, on commence à le savoir, tu sais. Moi, je veux rien savoir. Je suis pas une victime, là. Je veux dire, je me suis jamais sentie inférieure dans ma vie parce que j'étais une femme. Jamais, jamais, jamais ça m'est arrivé. J'ai jamais eu un refus d'emploi parce que j'étais une femme. J'ai jamais vraiment senti que j'étais inférieure parce que j'étais une femme. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé. Moi, jamais. J'ai aucun exemple à te donner.
Non, pas par rapport à mon sexe. Si j'ai eu des moments où est-ce que des moments où est-ce que j'étais plus faible ou quoi que ce soit, ou des confrontations, ça n'a jamais été par rapport à ma condition féminine. Ça, j'ai jamais connu ça. Et notre génération, je pense qu'on peut même pas se donner cet attribut-là. Je veux dire, même nos mères, je ne crois pas. Parce qu'on trouve encore, moi, c'est ça que je trouve aberrant. Puis c'est ça, le 8 mars, moi, c'est ça, j'ouvrais mon iPhone. Et là, ça commence autant du côté ici qu'au du côté du Québec. Nous avons le droit de revendiquer un salaire égal à l'homme. Nous avons le droit de revendiquer ici. Mais moi, je suis comme ça. J'ai un instant. C'est qu'on est rendu en 2014. Vous voulez revendiquer un salaire égal à l'homme? Ben, allez vous asseoir devant votre patron puis négocier avec votre patron. Si vous pensez que vous êtes discriminé, si vous pensez réellement que votre travail, ce que vous faites, votre position est semblable à un collègue qui est masculin, votre collègue masculin a plus que vous, ben, allez vous asseoir devant votre patron puis allez vous négocier avec s'il y a moyen de faire ça. Mais je pense qu'ils peuvent même pas faire ça. Parce que c'est une...
C'est pas vrai du tout. C'est spécial parce que ce qu'on disait, c'était du fait que la femme, pauvre la femme, comme elle devait enfanter, bon, c'est pas drôle, hein? Il y a juste nous autres qui peut faire ça. Ben, elle était, tu sais, souvent, faut que tu prennes un congé. Puis bon, ce qu'on disait, c'est que les employeurs étaient plus réticents à engager des femmes parce qu'il y avait tout ce côté-là qui pouvait tomber enceinte. Sauf que là, maintenant, c'est rendu égal. Un homme peut prendre son congé de maternité autant qu'une... Ben, paternité. Son congé de paternité autant qu'une femme, puis il n'a absolument rien fait. Excusez, là, mais bon...
Ben, il n'a pas porté pendant 9 mois.
Il n'a pas porté pendant 9 mois. Son travail s'est limité à une couple de, ça dépend des gens, une couple de minutes. Puis, ben, écoute, non, mais c'est vrai, là, tu sais, c'est des faits, là, tu sais. Mais, maintenant, ils ont droit à avoir absolument, c'est comme il y a une égalité.
50,
pourtant.
50.
Pour moi, c'est un non-sens. Puis je connais plein de gens qui vont prendre ce petit congé de paternité-là, puis pour aller à la pêche, la chasse, jouer au golf. Donc, c'est... Je sais pas.
Parce que moi, je persiste à croire, et je le dis tout le temps, l'égalité entre la femme et l'homme, et je parle pas des droits, je parle de au point de vue...
importance. On est atouts. Aussi important.
Oui, c'est ça, c'est égal. Ce qui constitue l'entité, la femme versus l'homme, nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas les mêmes égalités, les mêmes forces. Nous, on a la capacité de donner la vie en portant un enfant. L'homme a une capacité généralement plus physique, plus forte. L'homme a,
un effet.
A une tolérance à la douleur beaucoup moindre que la femme, et ça, c'est prouvé. La femme est capable d'endurer des douleurs parce que, justement, elle endure un accouchement. Et il y a beaucoup de facteurs qui font que, socialement, physiquement, psychologiquement, il y a une différence entre l'homme et la femme. Et ça, on ne pourra jamais, 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 jamais changer ça. Et... Le mouvement féministe veut nier ça et elle, ce qu'elle réclame. Puis moi, des fois, là, l'autre fois, j'ai marqué une affaire sur une page, justement, le féministe. J'ai dit, moi, je suis une féministe qui veut la suprématie de la femme et tout ça. Puis j'ai vraiment écrit un texte provocateur. Et tu sais quoi? Il y a des femmes qui ont aimé ce que j'ai écrit. Et après, j'ai répliqué, en passant, j'étais très sarcastique quand j'ai dit ça. Mais c'est te dire à quel point cette mouvance-là devient dangereuse. C'est que là, on est en train de mettre dans la tête de ces femmes que no matter what, n'importe quelle femme sur la Terre est une victime et sera une victime tant et si longtemps qu'elle ne sera pas égale au point de vue social, économique, financier.
Elle est une victime que parce qu'elle est une femme. Juste pour ça, il n'y a aucun autre facteur. Elle est victime le jour où elle naît. En étant femme.
Mais c'est qui dit, mais tu sais, c'est qui met ça dans la tête? Ce n'est pas l'homme qui décide ça. Il y a certains hommes, il y a certaines cultures, oui, qui vont dire la femme est inférieure. Mais la majorité des gens, des individus dans les sociétés occidentales vont reconnaître l'égalité de la femme et l'homme. Les seules entités qui vont continuer à dire que nous, les femmes, nous sommes victimes, c'est les féministes. Et ça, je ne suis plus capable d'entendre ça. Je ne me ferai jamais, moi, je ne serai plus capable d'accepter qu'il y ait un groupe qui parle en mon nom et qui continue à clamer le fait que nous sommes des pauvres victimes. Et puis aussi, la stratégie idéale de ces groupes dangereux, parce que moi, je les trouve très dangereuses, c'est étant donné qu'ils ne sont pas capables d'arriver au niveau de l'homme selon leur standard, parce qu'il voit toujours l'homme supérieur à la femme. La meilleure façon d'y arriver, c'est en cachant.
Exactement. Et c'est là qu'on voit des trucs abominables, comme le troisième sexe. Parce que d'un côté, puis de l'autre côté, on ne sait plus trop où se situer. Tu as les hommes qui sont hommes, donc avec leur caractère inné, on va démontrer ce genre de personnalité-là. On va se dire, mais t'es macho, mais t'es ci, mais t'es ça. Hein, un homme, il faut que ça pleure. Hein, ouais, let's go. Puis de l'autre côté, tu as les femmes. Mais écoute, faut que tu te tiennes debout. Non, tu peux pas être dépendante de ton homme. Tu dois faire exactement comme lui. Tu dois te donner. On dirait qu'on n'est pas complète en tant que femme si on n'est pas aboutie. Moi, je m'excuse, mais l'homme, j'aime bien les hommes, là, OK? C'est pas un modèle pour moi. J'ai pas envie d'être comme un homme, OK?
Mais en fait, c'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi être c'est femme. Ça. On sera jamais, eux autres ne seront jamais capables d'être, de savoir qu'est-ce qu'est une femme parce qu'ils sont pas dans notre peau, ils peuvent pas comprendre. Et c'est pour ça. Puis, juste pour conclure, moi, il y a une affaire, une campagne, parce que je parle de ça aussi, parce qu'il y a une campagne qui vient juste d'être déclenchée. Puis, entre autres, comme porte-parole, tu as la chanteuse Beyoncé. Ça s'appelle Stop, c'est Ban. Je vais te dire, mais c'est Bossy Ban, OK? De Bossy Ban, c'est une nouvelle stratégie pour dire que non, les femmes ne sont pas des bossy, ne sont pas des petites germaines, mais elles sont des leaders dans la vie. Et tout ça, c'est que là, on est tanné. Pour eux, c'est une discrimination de se dire que les femmes sont bossy. Les femmes sont germaines et elles ne doivent plus être traitées de germaines ou de bossées, mais elles doivent être traitées de leaders. Et maintenant, prenez exemple sur toutes les Beyoncé de ce monde. Et si tu prenais la peine d'écouter les chansons qu'elles chantent et de traduire la phrase et de comprendre comment c'est incohérent de dire « je veux pas être ça, mais en même temps, je veux me soumettre à mon homme, je veux être la poupée de l'homme » et tout ça. Dans les chansons, c'est ça qu'on lit, on est capable de lire. Et d'un autre côté, tu as ces mêmes personnes-là qui vont déclarer que « non, la femme n'a plus besoin de se faire dire ça, maintenant elle doit se faire dire qu'elle est une leader, elle est si... » T'sais, moi, demain matin, si j'ai besoin d'avoir une campagne publicitaire pour me dire que je suis une leader, ça prouve à quel point ça ne tient pas debout. Moi, si je veux être une leader, je ne vais pas le demander.
Tu vas l'être.
Je vais l'être. C'est ça. OK? Demain matin, je veux partir une entreprise qui va dans telle direction et je réussis tout ça, ça va faire de moi une leader. Si... Puis je suis même pas en train de...
C'est ça, c'est par tes actions que tu vas avoir ce qualificatif-là, c'est pas parce que... Puis tu sais, ils mettent ça, toutes les femmes, donc toutes les femmes sont des leaders.
Oui, c'est ça, donc toutes les femmes devraient être des leaders. Alors la femme qui reste à la maison et qui se consacre à sa femme, à sa famille, non, ça c'est pas bien, parce que tu peux pas t'épanouir, tu peux pas démontrer ton leadership, parce que tu fais ce qu'on te demande de faire. Et vois-tu, c'est là que moi, je ne suis plus capable. Moi, j'ai pour mon dire que s'il y a des gens qui veulent s'épanouir professionnellement parlant, qu'ils le fassent, ils vont avoir à subir des sacrifices parce que tu peux pas avoir tout ce que tu veux. Il y a des sacrifices qui vont être faits. Que tu sois femme ou homme, tu dois faire des sacrifices. Si ton rôle dans la vie, c'est de t'occuper d'enfants et de t'épanouir dans ta famille, fais-le, mais je ne suis plus capable d'avoir affaire à ces fameux lobbies puis ces fameux groupes qui représentent qui sont les femmes. Mais écoute, là, on va prendre une pause, puis on se reparle dans 2 minutes.
Baby, 6 that
Texane, juste avant la pause, bon, on parlait de politique au Québec et toute la transformation que ça a fait avec l'arrivée de PKP. Puis, comme invité au deuxième segment, ben on a une personne qui est blogueuse au Huffington qui va nous donner un petit peu sa vision des choses. Son nom, c'est Jessie McNichol. Bonjour, madame.
Bonjour, les filles.
Et bienvenue à Deux filles en liberté. Qu'est-ce que c'est qui se passe au Québec avec toute la transformation? On a eu l'histoire de la charte pendant un bout de temps, déclenchons des élections, puis là, finalement, badaboum, il y a un PKP qui se présente en élection chez le PQ. Qu'est-ce qui se passe au juste, là?
Ben là, c'est une grosse onde de choc. Là, je dirais que dans les médias québécois, on n'entend parler que de ça. Évidemment, à LCN, c'est mur à mur, là, c'est quasiment les plus vieux reportages, mais à RDI aussi, on sent que les gens sont très impressionnés par l'avenue en politique. C'est quand même une grosse prise pour Pauline Marois, là.
Ben oui, c'est une bonne chose, parce qu'en plus de ça, puis tu sais, bon, on dit, c'est partout mur à mur dans les journaux, dans les médias, puis tu sais, c'est comme lui qui est pas mal au-dessus de tout ça, tu sais, fait qu'on se posera pas trop de questions du pourquoi, mais c'était, écoute, ça l'a surpris tout le monde, puis c'est vraiment une bonne shot, là. Je suis impressionnée par le PQ, je vais vous avouer, parce que les autres partis, il y en a pas un qui finit par m'impressionner.
Mais on est conscient, là, moi ce que je disais, on est conscient que ça a été préparé d'avance. Ça fait très, 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 très longtemps. Même on avait, je pense, il y a quelques semaines, il y avait eu des fuites. Il y a des gens qui avaient parlé, justement, de PKP à Saint-Jérôme, exactement le comté où est-ce qu'il va se présenter. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Même encore, là, j'écoutais une entrevue, je pense que c'était à choix avec, je sais plus quel animateur, mais c'est PKP, justement, qui était en entrevue puis qui laissait croire que ça a été une décision qui a été prise soudainement. Mais écoute, là, c'est des politiciens. Ils sont astucieux. Ils savent exactement ce qu'ils ont fait. Mais ça.
Ouais, mais de toute façon, dans son cas, je pense qu'il y a, tu sais, il pouvait pas vraiment se permettre de l'annoncer d'avance parce qu'il y avait trop de choses à arranger par en arrière, trop de situations à régler, là. Mais écoute, moi, à partir du moment où il a laissé sa job pour devenir administrateur à Hydro-Québec, je me suis dit, bon, ben ça y est, c'est plus le PQ, c'est PQP, là, tu sais, ou c'est Parti québécois, tu sais. Moi, à ce moment-là, ça annonçait vraiment son intention de se joindre au PQ. Là, je voyais pas ça autrement. C'est sûr que le moment où c'est arrivé, on l'attendait peut-être plus vraiment à ce moment-là. Mais
pensez-vous qu'il va être qu'il va se contenter d'être un simple député? Moi, j'ai tellement l'impression que c'est ça, il s'en va là pour quelque chose.
Oui. Puis il va l'avoir, je veux dire, tu sais. Il est peut-être patient pour attendre, OK? Ça, c'est possible parce qu'il est connu comme étant un homme extrêmement déterminé, extrêmement tuniace. Fait que je me dis, bon, ben il est peut-être prêt à attendre son tour ou peut-être qu'il va faire comme le PQ fait toujours, poignarder son chef dans le dos pour le sortir au plus vite. Je sais pas c'est quoi son plan exact, mais moi, je peux pas imaginer que PKP sera pas un jour prochain un premier ministre du Québec.
Ouais.
Puis moi, comme je m'amuse de dire, moi-même, devenir, son but ultime, c'est devenir le souverain du Québec. Je sais pas, il y en a qui parlent déjà de référendum en 2015. Moi, j'ai eu écho, bon, il y en a d'ici 4 ans, il va y avoir un référendum, mais moi, je pense que c'est son but ultime, puis il est vraiment en train de s'entourer de gens qui vont faire en sorte que justement, il va y parvenir. Mais là, d'un autre côté, moi, je regarde ça, puis bon, vois-tu, ce que je remarque, c'est depuis quelques années, il y a eu comme une nouvelle mouvance qui est arrivée. Là, avant, on parlait toujours indépendantiste, fédéraliste, et graduellement, on a comme viré vers le côté droite-gauche, malgré le fait que le Québec est vraiment de gauche et de façon évidente. Qu'est-ce qui arrive en ce moment avec la droite québécoise? Parce que il y a comme une déstabilisation, à mon avis.
Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à la droite québécoise, là, c'est qu'on ne peut pas vraiment la comparer, par exemple, à la droite américaine, OK? Parce que au Québec, la droite, là, c'est défini par opposition au mouvement de gauche. Tu comprends? Fait que pour beaucoup de Québécois, là, le Parti libéral du Québec puis la CAQ, c'est de la droite. OK? Alors que, tu sais, je veux dire, dans les faits, c'est complètement aberrant de parler de droite, de qualifier de droite des partis qui augmentent l'interventionnisme de l'État, qui augmentent le nombre de fonctionnaires pour soi-disant créer de l'emploi, je veux dire, c'est complètement aberrant. Mais dans la tête du monde, c'est déjà de la droite. Donc, la droite est définie comme étant un petit peu moins à gauche que les partis très, très à gauche qui nous gouvernent. Pourtant, on peut pas en discuter sur les mêmes bases, tu sais, comme je disais que la droite américaine. Maintenant, moi, je pense que la droite québécoise a été énormément déstabilisée par la charte, beaucoup plus que par l'arrivée de Pécopé en politique.
Ah ouais.
C'est l'analyse que j'en fais, là. L'arrivée de la charte, là, c'était une grosse déchirure, en tout cas au sein, mettons, du réseau Liberté Québec. Là, on a senti que ça s'est scindé en deux, ça a éclaté littéralement. Là.
Ça l'a séparé la droite, c'est ça? Ça l'a séparé le Québec et ça l'a séparé la droite.
Absolument. Wedge Issue réussit à 100%, là, ça a tout démoli. Et puis, il y a des gens qui s'identifiaient comme étant à droite, qui sont devenus donateurs du PQ, qui ont commencé à s'afficher pour le PQ. Il y en a qui, sans s'afficher pour le PQ, ils se sont dissociés des mouvements de droite qui tentaient de s'organiser.
Mm-hmm.
Il y a eu vraiment une déchirure à ce moment-là, tu sais.
Puis, mais qu'est-ce qui fait, parce que moi, c'est ça, je regarde, puis là, on va parler du seul parti de droite au Québec, le PCQ. Il me semble qu'il n'y a aucune réaction, ni au niveau de la charte. J'ai pas vu réellement, on dirait qu'ils ont comme voulu neutraliser ce sujet-là. Et là, il y a l'arrivée de PKP, puis c'est exactement la même chose qui se produit. Qu'est-ce qui arrive, selon toi, avec ce parti-là? Parce que pour moi, à mon avis, au départ, ils avaient tellement de potentiel, ils avaient le champ libre. Là. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mm-hmm. Puis là, on dirait qu'en ce moment, là, excuse-moi, mais ça fait une grosse patate. Là. Ça a tombé. Là. Puis j'écoute encore certaines personnes, puis je trouve qu'il y a certains candidats qui ont vraiment du potentiel. Là. Moi, personnellement, j'ai parlé avec des gens, puis tout ça, puis je trouve qu'ils sont déterminés. Ils sont pas. C'est pas des politiques cailleux comme on voit, mais je sais pas si c'est par manque d'expérience, quoi que ce soit. Mais ils comprennent pas, ça je leur dis crime, là. C'est comme, de un, juste parler d'économie, ça fait pas lever le monde. De deux, votre nom fait peur, mais à place d'essayer de mettre comme un sparadrap pour cacher le nom, ben essayez d'expliquer plutôt c'est quoi vos valeurs. Mais il y a quelque chose avec le PCQ, j'ai pas compris, ça fait plusieurs fois que j'essaie de les challenger, puis même, je me suis fait bloquer, moi, sur la page officielle, juste te dire à quel point il y a un problème. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben moi, ce que je pense, c'est que, tu sais, mettons, si on lit leur programme, là, moi, je suis très, 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 très proche idéologiquement du programme du PCQ.
Okay. Mm-hmm.
Sur l'offre politique qu'il y a au Québec, là, c'est le PCQ, et de très, très loin, qui se rapproche le plus de moi, de mes valeurs, de ma lecture de la situation. OK? Maintenant, c'est sûr qu'ils n'ont pas des gros moyens financiers. Donc, ils peuvent pas s'engager des professionnels d'image, ils peuvent pas faire des vidéos professionnelles. Ils doivent se débrouiller avec les moyens du bord, d'une part. Mais d'une autre part, c'est que la droite au Québec est basée, ça on l'appelle la droite économique, c'est pas pour rien, OK? Le mouvement de droite se crée à partir de gens qui s'informent, qui lisent l'actualité, qui s'informent sur l'économie, puis qui se disent « les chiffres arrivent pas ». OK? La seule chose qu'unit la droite au Québec, c'est de dire les chiffres arrivent pas. On vaut cher pour ce qu'on a, le mur s'en va. OK? Maintenant, ce discours-là, c'est un discours qui est très, très, très rationnel. C'est un discours de chiffres. C'est pas un discours qui peut faire lever les passions. C'est pas un discours qui peut rejoindre le Québécois moyen. Alors que dans les faits, il suffit de trouver la bonne façon d'aborder ces sujets-là pour arriver à rejoindre les gens. Mais c'est d'ouvrage, c'est pas évident, on peut pas réussir à tous les coups. Mais j'ai l'impression que les gens du PCQ comprennent pas le fait qu'il faut parler aux tripes des Québécois. C'est à leur cerveau, et puis c'est comme, même si tu veux t'adresser à leur cerveau puis passer un message intellectuel, il faut que tu passes par les tripes pour ouvrir les oreilles.
Non, je pense que t'as exactement raison, puis je pense à ça, tu sais. Tu dis, bon, tu sais, c'est-tu plate qu'il y a quelqu'un qui arrive chez vous puis il dit, écoute, faut que tu coupes dans ci, dans ça, t'es embêté, fait que va falloir que tu ailles manger moins souvent au restaurant, puis c'est ce qu'ils disent. Sauf que le but ultime, c'est que la plupart des Québécois aient plus d'argent dans leur poche, donc vont pouvoir éventuellement pouvoir plus dépenser, mais bon, c'est sûr que ça se fait par étapes, mais on dirait qu'ils vont pas accrocher ça. Puis là, ce qu'ils font, c'est ils ne font que l'identification de problèmes, puis oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais on dirait que les solutions, c'est toujours c'est boiteux un peu comme solution. Il n'y a pas d'étape par étape. J'ai l'impression que ils concentrent beaucoup plus sur l'identification de problèmes que sur les solutions à venir.
Ben en fait, c'est que moi, je pense que, tu sais, souvent, ils vont référer à des modèles étrangers, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'ils ont à faire dans l'application des solutions, mais pour vendre les solutions à la population, c'est pas une bonne façon de procéder, parce qu'encore là, on est dans le rationnel, on passe pas par l'émotif, tu sais. Regarde, je vais utiliser, tu sais, des exemples d'articles que j'ai écrits, tu sais. J'ai écrit un article pour essayer de faire passer l'idée d'instaurer le workfare pour les gens qui sont sur l'aide sociale. OK? Bon, mais pour passer mon message, je prends l'exemple que pour moi, les plus démunis, c'est les personnes qui sont lourdement handicapées, qui peuvent travailler, qui ont des empêchements majeurs, puis eux autres, il faut s'en occuper comme il faut. Puis si on prend les gens qui n'ont pas de contraintes à l'emploi, puis qu'on les fait travailler, ben on rend des ressources disponibles pour mieux aider les personnes qui en ont vraiment besoin. OK? Mais j'ai jamais entendu le PCQ utiliser un discours de cet ordre-là. Tu sais, c'est toujours rationnel. C'est là, il parle que quand t'es sur l'aide sociale, puis que t'essayes de travailler, tu te ramasses imposé à 100%. Ça reste théorique. Ça mène pas vers une solution, tu sais. Mais dans les faits, oui. Mais je veux dire, pour aller chercher le cœur des gens, non, pas vraiment, tu sais.
En fait, c'est l'émotion. C'est parce qu'il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de... Moi, ce que je dis, c'est que j'ai travaillé auprès de personnes qui avaient des troubles mentaux, des personnes qui souffrent de drogue. Pour faire changer quelqu'un, c'est pas en lui disant que son comportement est irrationnel ou quoi que ce soit, parce qu'il changera jamais. Il faut jouer un peu avec l'émotion et surtout, il faut aller jouer avec les valeurs morales, les valeurs sociales. Tu sais, n'importe quelle valeur, c'est ça qui va faire changer le comportement d'une personne. Et ça, je me suis battue pendant tellement longtemps avec le PCQ. Dès l'arrivée de M. Pouliot, j'essayais de contacter, puis moi, peut-être parce que j'essayais d'être un petit peu trop pushy, puis ça comme, pas avec lui, mais je veux dire, les gens de son entourage, ça les a agacés. Et l'une des choses, c'est parce que souvent, j'arrivais avec des thèmes qui étaient très tabous. Ça, tel qu'on parle, là, je veux dire, on parle du bien-être social, on parle de l'avortement, toutes des choses que même si le Québec n'est pas directement, ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, il faut pas parler de ça. Il faut toujours parler de chiffres. Et ça me rendait... ça me rendait dans une situation où est-ce que je dis, bon, mais c'est ça, c'est peine perdue. On ne peut pas avancer. Comment s'attaquer à l'éducation? Comment s'attaquer au système de santé? Et même tous les problèmes que le Québec connaît, si de un, on va pas à la source du problème, et la source du problème, à mon avis... Mon humble avis, c'est le système. Et comment, de deux, on ne peut pas faire, on peut pas parler des valeurs morales, sociales qui sont accolées à ces systèmes-là, à ce système.
Ça aurait été important parce que, comme je le disais en début d'émission, le problème avec M. Pouliot, c'est que il est pas sexy de la personne, mais que son arrivée n'est pas sexy parce que, bon, c'est un homme d'affaires qui est très riche. Comme tu sais, les Québécois, on n'aime pas ça, les gens qui sont très riches, parce que de l'argent, c'est sale. Il arrive avec le nom d'un parti qu'on n'aime pas trop, tu sais, conservateur, on n'aime pas Harper au Québec, tu sais, on le voit un peu, tu sais, comme le devil, le diable. Puis en plus, il arrive avec un programme qui est tout à fait à l'opposé de ce qu'on était habitué de voir. Fait que c'était clair que ce gars-là, il était pour se planter. Puis bon, je suis pas mal certaine que la campagne va être un flop. Puis j'aurais aimé qu'on aille chercher justement qu'on définisse ce qu'est un un conservateur de ce parti-là. Donc, est-ce que c'est plus ce côté libertarien ou est-ce qu'on est vraiment conservateur, puis qu'on parle des valeurs morales, puis tout ça, puis qu'on en jase, parce que c'est toutes ces valeurs morales-là qui dérangent les Québécois. C'est pas tant au niveau économique, c'est vraiment quand on commence à gratter là, sur les droits à l'avortement, qu'on parle de ces trucs-là, c'est là que ça vient choquer les Québécois.
Écoute, là, dans ce que vous venez de dire, il y a énormément de matériel. Je sais quasiment plus par où commencer. Mettons que, on dit que Harper vient du revendre au Québec, mais bon an, mal an, Harper il vient chercher 10 à 15 % des votes. OK? Le Parti conservateur du Québec est très, très loin d'être allé chercher ce 10 à 15%-là et je serais extrêmement étonné qu'il aille le chercher à la prochaine élection. OK? Par ailleurs, là, définir conservateur, libertarien, tout ça, c'est dangereux parce que moi, tu sais, je check les définitions qui passent sur Internet, là, puis tantôt je suis néo-con, tantôt je suis libertarienne, tantôt je suis libertarienne de gauche. Je sais pas où je me situe, puis j'ai l'impression que si je me mets une étiquette, je suis condamnée à me faire challenger, dire « Ouais, mais t'es pas une vraie néo-con, ouais, mais... »
Ouais, mais c'est ça, mais tu décrire, ouais, mais tu peux te décrire. C'est parce qu'on décrit pas, tu sais, on se décrit comme, tu sais, on peut dire « Moi, je suis une libertarienne parce que, et voici ce que je crois. » Mais le Parti conservateur le fait pas nécessairement. On parle que du côté économique. Mais c'est parce que si le Parti arrive au pouvoir, il va pas juste l'idée côté économique. Là, il va falloir qu'il en parle. On veut le savoir.
Oui, ça, je suis d'accord avec vous autres qu'il y a un flou. Ils se sont définis de façon très, très floue. Là. Moi aussi, j'ai un petit peu de mal à les situer. Par contre, tu sais, quand il dit la boussole idéologique, c'est de donner moins de place à l'État, puis de redonner plus d'argent, plus de pouvoir et plus de responsabilité aux citoyens. Moi, ça... Tu sais, comme définition, je me reconnais là-dedans.
Oui.
Ça apporte un bémol parce que vous donnez l'exemple de l'avortement au niveau des valeurs, tu sais. Puis, moi, l'avortement, je trouve que c'est un sujet hyper délicat, OK? Mais en même temps, t'as le camp qui veut l'avortement libre et gratuit pour tous et t'as le camp qui veut interdire l'avortement parce que c'est un meurtre.
Oui.
OK? Moi, je me situe dans aucun de ces deux camps-là, OK?
Moi non plus.
Que l'accès à l'avortement sécuritaire, je pense que dans la société d'aujourd'hui, c'est pratiquement fondamental et je ne toucherai à ce droit-là sous aucun prétexte.
Tout à fait.
Que ça doit être gratuit et financé par l'État, ben là, c'est parce qu'il y a des gens qui voient ça comme un meurtre et qui sont obligés de le financer via leurs impôts. Malaise, tu sais.
Mais c'est là le débat. Vois-tu, en ce moment, on est en train de parler d'un débat potentiel qui serait très intéressant à la droite de le mettre. Puis, je parle pas juste de l'avortement, mais je parle pour n'importe quel aspect de la société.
Ben ça peut être l'euthanasie, tu sais, toutes ces espèces de
ben même
de
l'éducation,
sujets-là.
même l'éducation, c'est parce que on dirait justement le problème avec le PCQ, c'est qu'ils n'ont pas voulu amener de profondeur dans leur discours. Et c'est ça que je reproche. Autant au point de vue de l'éducation, au Québec, on s'entend pour dire que l'éducation est très, il y a un monopole. Même quand on parle, on fait une distinction entre l'école privée, l'école publique. Écoute, il n'y a pas grande différence. La plupart des écoles privées au Québec sont subventionnées, alors qu'ils sont sous le contrôle du département de l'éducation, du ministère de l'Éducation du Québec. Il n'y a pas une distinction. On parle de faire l'école à la maison, c'est presque inexistant. Il n'y a aucune façon de voir un débat et je trouve que le PCQ aurait pu avoir, il avait l'ouverture de prendre tous les sujets qui affecte le Québec et d'en faire un débat et dire, nous, en tant que parti qui veut moins d'intervention, on laisse les gens parler et par rapport à ça, on va prendre une position. C'est plus comme justement, ils sont arrivés avec une formule mathématique et on dit, selon les statistiques ou selon aussi, c'est dans cette direction où ils ont pris un plan, je pense, aussi basé sur l'ADQ pour agir, créer leur campagne ou leur créer leur plan de match. Mais moi, je suis désolée. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'entente. Et surtout, ce que je trouve déplorable, et je pense que ce qu'il est en train de tuer en ce moment, c'est qu'ils ont aliéné, justement, les plus radicaux. c'est les gens qui, c'est quand je dis radicaux, c'est pas les dangereux, mais c'est des gens qui ont des valeurs beaucoup plus profondes et ancrées. Ils ont, à la place d'avoir voulu travailler avec eux, ils ont comme écarté ces gens-là et ont dit, nous, on va se centrer. Comme ça, ben, on va peut-être être capable de plaire certains de la gauche. Est-ce que je me trompe?
Ben, c'est
quand
ça.
Je dis
ça? C'est comme, ça me fait tellement penser à la CAQ. Tu sais, on essaie toujours, on a des, la CAQ d'avant, là, parce que on dirait que ça l'a changé, là. Mais tu sais, t'as des valeurs, puis là, tu veux tellement plaire à tout le monde que là, tu t'adaptes. Finalement, tu perds toute ta saveur. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que dealer avec le Parti conservateur du Québec, c'est comme aller voir ton comptable. C'est-tu assez plate?
Ouais, je pense que l'exemple du comptable, là, c'est pas mal ce que j'essayais de dire au départ. Mais j'aimerais ça revenir, par exemple, sur ce que Julie disait pour l'école, ouvrir à l'école complètement privée, puis faire l'école à la maison. Je trouve que ton exemple, il est pas adapté à la réalité actuelle du Québec. Okay. Le discours que tu tiens là, je veux dire, t'es tellement loin dans la fenêtre d'Overton là, que tu rejoins même pas le monde, OK? Faut te replacer dans le contexte où ce que on est tellement à gauche, tellement pris en charge par l'État, que présentement on va payer, si tu veux, faire garder ton enfant de 1 an par ta voisine et garder l'enfant de ta voisine en échange. Mais si tu décides de rester à la maison pour garder ton enfant, on t'aidera pas. OK? Fait qu'on, à la maison, là, je veux dire, ça fait 5 ans que la mère est retournée sur le marché du travail puis qu'elle n'est plus vraiment la mère de son enfant, là. T'sais, elle est comme la gardienne de nuit, là.
Tu te donnes tellement raison. Puis c'est vrai, là-dessus, le fait d'être à l'extérieur et de vivre dans un état, tu sais, les États-Unis, là, bon, c'est sûr qu'il y a des régions beaucoup plus progressives que d'autres, mais nous, dans le nord, dans le sud des États-Unis, ben, c'est plus conservateur. C'est sûr qu'on a adapté ça, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là qui pensent différemment, parce qu'il y en a au Québec aussi qui pensent exactement comme moi, il y en a qui sont très conservateurs.
Ce que je te dis, c'est que les gens qui pensent différemment, ton sujet, là, il est même pas d'actualité. C'est comme si, tu sais, je veux dire, mm-hmm. C'est comme si tu me disais, oui, mais c'est parce que la cuisine n'est pas fonctionnelle. Moi, je te dis, non, la maison est pas bâtie, là.
Oui, oui. Non, mais mon point, ce que je veux dire, c'est que la place, cet argument-là n'est peut-être pas encore d'actualité. On n'est peut-être pas encore rendu là. Ce que je déplore, par contre, c'est à la place de leur avoir laissé la porte ouverte, d'avoir laissé ces gens-là être actifs dans le parti, on a comme voulu les censurer. Et c'est ça que je reproche. Je suis pas en train de reprocher le fait que le PCQ est pas encore assez à gauche. Ben, je le fais dans mes commentaires, mais dans le sens, c'est, moi, je le fais pour les pousser à aller plus vers la droite. Mais je suis tout à fait consciente qu'ils ne peuvent pas arriver avec un radicalisme comme Québec solidaire. Ils sont pas encore rendus là.
Ben, quoi que monsieur Pouliot s'est dit qu'il était le Amir Kadir de la droite. C'est lui-même qui le dit.
Ouais, mais.
Ça, par exemple, que j'aimerais apporter une nuance à ce niveau-là. Je suis convaincue qu'il référait au fait que Amir Kadir, quand il était tout seul élu à l'Assemblée nationale, déjà, il portait haut et fort le message des gens de la gauche radicale. Puis je suis convaincue que c'est à ça qu'il référait, de dire, regardez, même si vous m'élisez juste moi, je vais être là au Parlement, puis je vais apporter haut et fort votre message et je vais avoir un impact pour tirer les autres partis de notre côté. T'sais.
Oui, puis ça, je suis d'accord.
Oui.
Sauf que, tu sais, on s'entend que comme titre dans, je sais pas si la journaliste, elle a fait ça pour lui nuire ou quoi que ce soit, mais j'avais trouvé ça assez spécial de voir ce titre-là, là.
Mais, tu sais, je probablement que c'est mieux compris par les gens de la gauche que par les gens de la droite. Tu sais, il a essayé d'avoir une phrase choc, puis il est pas tombé pile, faut croire. Hein.
Non, mais tout ça pour dire que qu'est-ce qui arrive en ce moment? Parce que je reviens avec le sujet initial, on parlait de PKP qui est arrivé en politique. Plusieurs le voient comme un droitiste. Moi, je le vois plus comme un crony capitaliste, une personne qui a, oui, peut-être une pensée de droite au point de vue économique, mais qui a eu beaucoup, beaucoup d'avantages avec le... Tu sais, il y a eu une belle relation avec le gouvernement, ce qui lui a permis de s'enrichir de beaucoup. qu'est-ce qui arrive avec le paysage politique québécois? Parce que moi, je pense en ce moment, là, les dés sont joués. Et le 7 avril, là, à moins qu'il y ait une catastrophe incroyable, ben le PQ va rentrer au pouvoir. Il va rentrer de façon majoritaire.
Là. Écoute, je voudrais faire une petite parenthèse sur PKP. J'ai fouillé un petit peu sur le sujet. Hein.
Oui.
Et puis, quand Vidéotron a été mis en vente en 2000, Rogers avait fait une offre. Il était sur le point d'acheter. Et c'est la Caisse de dépôt qui a décidé qu'il fallait bloquer cette transaction-là parce que Rogers, il était pas bon avec le Québec, puis avec les Québécois, puis il était pas francophile. Donc, ils ont fait des pieds puis des mains pour trouver des acheteurs. Ils en trouvaient pas. Ils ont sollicité PKP. PKP voulait pas. Ils ont insisté. Ils ont fini par offrir 30% au-dessus du marché. Ils ont offert de devenir propriétaire d'une business qui vaut 6 milliards, mais alors qu'on a collectivement presque la moitié des actions. Fait qu'il a fini par accepter après s'être fait tordre un bras par la Caisse de dépôt. OK? Et en 2000, qui était au pouvoir? C'était Lucien Bouchard, notre premier ministre. OK? Fait que PKP, là, oui, c'est un crony, mais excuse-moi, là, si tu me tords un bras pour me rendre actionnaire majoritaire d'une société qui vaut 6 milliards, qui se laisserait pas tenter, là?
Tout à fait. Ah oui, oui. Puis ça, je le vois pas comme... je le définis comme crony, c'est pas négatif, c'est juste un fait. C'est pas un... C'est ça.
Oui, absolument. Oui, c'est un fait. Sauf que, tu sais, je veux dire, c'est pas lui qui a tordu un bras à Caisse de dépôt. Mm-hmm. C'est l'inverse, OK? Lui, il a juste suivi, OK? Après ça, il y a eu l'éclatement de la bulle des technologies. Donc, tout le monde disait, ah, Vidéotron, ça va planter. On prédisait la mort annoncée de PKP, là, qui allait se couler avec Vidéotron. Alors que dans les faits, oui, il a été très dur en affaires. Mais il a coupé la moitié des postes, mais Vidéotron est encore là aujourd'hui, puis il est encore viable. Tu sais? Fait que ça reste que c'est quand même un homme d'affaires que, malgré qu'il soit cloné, je veux dire, il a fait une bonne job, le gars, là. OK? Il a pris une bébelle qui était un monopole, qui l'était plus, qu'une bulle éclate, puis réussit à tirer son épingle du jeu pareil. Maintenant, ça nous a coûté 1 milliard à ce jour.
Petit détail.
Par emploi sauvé, je trouve que ça fait très très cher, mais bon, c'est mon humble opinion. Fait que ce gars-là, je trouve que c'est une candidature de taille pour le PQ. Je pense que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps, parce que je pense que l'arrivée de PKP va faire en sorte que le PQ va passer majoritaire, mais en même temps, je pense que c'est un gars qui a plus la capacité que n'importe qui d'autre au PQ de faire une gestion qui a un petit peu d'allure. Mais il a été déclaré publiquement que non, le Québec est pas au Québec les syndicats sont pas trop forts et que tu peux pas gérer un gouvernement comme tu gères une entreprise privée. Quelle entreprise privée c'est pas rentable, elle sera plus là. Alors que le gouvernement va toujours être là. Ça sonne pas droit, mais pas du tout dans mes oreilles, tu sais.
Non, puis non, c'est ça. Mais on est devant ce fait-là. C'est quoi le futur du Québec? Parce que c'est inquiétant. Puis en plus de ça, c'est parce qu'il y a encore des rumeurs, les rumeurs de décoter la cote, le crédit du Québec si jamais le PQ rentre.
Mais c'est plus que des rumeurs. L'antagoniste, là, il a fait un article, il a mis des références d'articles en anglais, évidemment, parce qu'en français, il n'existe rien de tel.
Oui.
Et ça dit qu'on a nos taux d'intérêt ont déjà augmenté de, je pense que c'est de 3.2 à 3.3. En tout cas, 0,1% d'augmentation sur nos taux d'intérêt. Mais je veux dire, 50 milliards, c'est astronomique, là.
Oui, oui.
Tu sais? Fait que c'est déjà commencé et ça va être pire parce que les investisseurs, ils font pas confiance à un Québec souverain, qu'on peut dire, là. Non, ils voient pas ça d'un bon œil du tout, donc les gens veulent plus investir, donc faut leur donner plus d'intérêt pour qu'ils nous prennent leur argent.
Non, c'est fou. Puis la semaine passée, si tu écoutes l'émission de la semaine dernière, on avait justement un autre blogueur du Huffington Post, Frédéric Gamache, qui lui, contrairement à toi, nous amenait le fait que, selon lui, le Québec est très riche et que dans 10 ans, le Québec va payer pour l'Alberta en faillite. C'était donc un son de cloche complètement différent que celui qu'on a avec toi.
J'ai lu un article qui disait ça, mais j'ai pas du tout été convaincue par leurs arguments. Je me souviens pas exactement ce qui sortait, là. Mais non, je suis pas convaincue du tout. Parce qu'au Québec, là, je veux dire, d'année en année, là, on trafique les méthodes comptables pour faire un budget soi-disant équilibré. Le déficit zéro, ça n'existe pas au Québec, là. Ça n'a jamais existé dans les 40 dernières années, là. OK? On ajoute directement la dette des commissions scolaires à la dette. On compte pas dans le déficit. Différentes techniques qu'on utilise pour cacher des dépenses et compter en double des revenus.
Puis c'est pas quelque chose, c'est pas, en fait, c'est pas de repayer la dette, c'est même pas...
On fait juste payer les intérêts de la dette, mais on doit pas les payer au complet parce que faut qu'on emprunte en plus. Puis souvent, on va dire « Ah oui, mais là, tu parles du déficit accumulé ou de la dette brute ou de la dette nette. Excuse-moi, là, même si ta maison vaut 2 millions, c'est l'exemple de Denis Julien, j'ai adoré. Si tu gagnes 30 000, mais que tu réussis à emprunter pour une maison de 2 millions, tu vas être capable de faire les paiements? Ta dette nette est zéro, là. Mais tu seras pas capable de faire les paiements. » Puis c'est dans cette situation-là qu'on est au Québec.
Pis c'est exactement, c'est un peu ça aussi qu'il jouait. Il parlait, il disait, regarde toutes les richesses qu'on a, regarde juste Hydro-Québec. Lui, il parlait qu'Hydro-Québec, puis j'ai pas de doute dans le sens, je pense qu'il avançait que ça valait... on pouvait payer avec Hydro-Québec presque la moitié de la dette, selon M. Gamache, mais je disais... Hydro-Québec, pour l'instant, c'est un actif, mais on peut pas prendre cet argent-là pour l'instant puis renflouer. Fait que tant que tu n'as pas l'argent pour renflouer la dette, ben tu l'as pas payé ta dette.
Puis ta dette a continué de s'accumuler. Fait que c'est complètement fou.
Mais c'est pour ça. Mais
Monique Jérôme Forgette est passée en entrevue récemment. Elle disait que quand elle était ministre des Finances, elle essayait de négocier pour avoir une cote triple A, ce qui nous aurait coûté énormément moins cher, étant donné l'ampleur de la dette. Et puis, elle se le faisait refuser. Elle disait, oui, mais on a Hydro-Québec. Elle se faisait répondre, vendez-le.
Exactement. C'est tant
que... Tant que c'est évalué, ça reste théorique. Là, si on le met sur le marché, est-ce qu'il vaut vraiment ce qu'on prétend qu'il vaut? C'est facile de dire que ma maison vaut 200 000, là. Si jamais sur le marché, je vais savoir 200 000 pour.
C'est ça, exactement. Puis, on a, veux-tu juste au point de vue terre à terre, on a l'exemple exact en ce moment avec les maisons du Québec. Il y a eu une espèce de bulle immobilière, même si plusieurs sont en train de me dire que c'est pas vrai. Et il y en a qui disent, ben, ma maison, je l'ai achetée en 2005 à 200 000, elle vaut 300 000 maintenant. Je suis plus riche de 100 000 $. Ils vont jouer sur la différence, ils vont aller chercher des crédits. Mais en fait, c'est de la pure spéculation. Tant que tu n'as pas mis une pancarte et tu n'as pas vendu ta maison, tu n'as pas récupéré le capital, tu n'as pas cet argent-là. C'est juste fictif. C'est un beau chiffre, c'est très intéressant, mais il peut arriver n'importe quoi qui fasse que les chiffres dégringolent. Et c'est ça le problème avec Hydro-Québec, entre autres. C'est que c'est une richesse, puis avec l'énergie naturelle, l'eau, c'est quelque chose qui est renouvelable, contrairement à l'énergie, le pétrole. Mais l'exploitation, il peut arriver n'importe quoi et ça peut faire chuter la valeur de l'énergie. On le voit même en ce moment avec les contrats avec les Américains. En ce moment, on n'est pas capable de rentabiliser avec l'histoire des éoliennes. C'est catastrophique. Mais on continue à dire que c'est une énergie qui est rentable. Puis, malheureusement, quand c'est pas rentable, qu'est-ce qu'on fait? Puis, je pense qu'on vient juste d'envoyer une nouvelle qui annonçait qu'il va y avoir encore une hausse de 4,3% de la facture de l'énergie. Ben écoute, c'est toujours le petit peuple qui paye. Puis, c'est pour ça, j'ai beaucoup de difficultés. Hey, moi, je veux juste prendre un petit 5 minutes, là, parce qu'il faut passer à la pause bientôt. Ouais. J'ai entendu dire que tu avais un intérêt. C'est pas une passion. Je connais certains. Je sais que t'es avec une personne qui a une passion pour ça, mais t'avais un intérêt pour les armes à feu. Puis c'est assez surprenant parce que les Québécois, d'habitude, c'est assez tabou. Puis je te suis là-dessus. J'aimerais avoir ton opinion, là. Court, là. Qu'est-ce qui a amené à cet intérêt-là, en fait?
Ben, moi, ça a commencé, je veux dire, quand j'avais 10 ans, je tirais de la 22 avec mon père.
Oh, cool.
Alors, disons que moi, mon rapport avec les armes à feu, là, c'est pas d'avoir peur, c'est simplement d'être consciente que faut avoir de multiples précautions pour que ce soit sécuritaire. Mais je pense que même si c'est pas reconnu au Québec, le droit de posséder un arme à feu, ça devrait être inaliénable, à moins que tu aies un passé de criminel, de violence ou de problèmes de santé mentale importants. Puis je vois ça, je vois les armes à feu au même titre qu'un vaccin. Tu sais, si 95% de la population est vaccinée, le 5% qui sont pas vaccinés, ils vont être protégés par le fait que les 95% autres l'ont été. Mais je pense que si 95% des gens honnêtes et équilibrés mentalement avaient un arme à feu à la maison, toutes les autres qui en ont pas seraient protégés par le fait qu'on sait que tout le monde a un gun à la maison. Puis les crimes de type invasion de domicile, là, ça existerait plus.
Exactement.
Parce que c'est un type de crime qui est commis contre des gens honnêtes et vulnérables. Mais c'est parce que quelqu'un de 80 ans qui s'est manié une arme à feu, est-tu vraiment vulnérable? Pas vraiment.
Puis la relation avec les armes à feu, on va s'entendre, là, au Québec, ça n'a pas toujours été comme c'est actuellement. C'est vraiment une question, il y a eu comme une espèce de brainwashage, où est-ce que maintenant, c'est même tabou d'avoir, là, les enfants, d'avoir des petits pistolets en plastique, d'utiliser les doigts, les papas, jouer au cow-boy. C'est presque rendu aussi fanatique que ça, parce que moi, je me rappelle, je pense que j'ai eu mon grand-père qui avait une carabine, c'est plus du tout le même genre de carabine maintenant, mais ça avait, tu sais, la vieille traditionnelle carabine avec le bois, là, c'était quelque chose de normal, il y a quelques générations, d'avoir une arme à feu. Maintenant, là, je veux dire, tu fais juste avoir un dessin. Les gens, moi, j'ai des gens dans ma famille qui ont arrêté de me parler à cause du fait qu'ils savent qu'on a fait ce choix-là ici. On est rendu des radicaux parce que, justement, on a décidé d'appliquer le deuxième amendement américain. Qu'est-ce qui fait que ça a changé comme ça?
Bien, après le drame de Polytechnique, il y a eu énormément de récupération politique autour de ça. Il y a eu la création d'un lobby pour le contrôle des armes à feu, payé par notre argent, évidemment, financement public de ce lobby-là. Et puis, il utilise largement les données de Statistique Canada, mais dans un découpage toujours très particulier, hein. Parce que c'est drôle, quand je vais voir leurs références puis que je lis l'ensemble des données, ça me fait comprendre exactement ce qu'on essaye de nous faire croire, tu sais. Je vais donner un exemple très, très simple et très frappant. On diffuse largement depuis qu'il y a des mesures de contrôle des armes à feu. Le taux de suicide par arme à feu a baissé. Les chiffres n'ont pas changé. On se félicite du fait que les gens se pendent au lieu de se tirer. Mais moi,
non, puis c'est ça. Puis il y a même une étude qui était, je sais pas si c'est fondé ou quoi, mais j'avais vu ça sur, c'est un copain justement, lui qui pratique la chasse, tout ça. Puis il est dans le, tu sais, il a la même position que nous. L'étude disait, elle révélait que maintenant, il faisait référence aux activités et faire du vélo par rapport à chasser provoque beaucoup plus de risques d'accidents. Il énumérait toutes les activités que les gens sont habitués de faire. Et la dernière activité qui était à risque pour avoir des accidents, c'était la chasse. Alors, ça démontre à quel point on va gonfler les chiffres pour discréditer ou même aliéner les gens qui pratiquent ce sport versus d'autres activités qui sont vraiment, là, c'est quoi, là, on va faire un registre des bicyclettes maintenant parce qu'on s'aperçoit que les gens sont plus à risque. Là, c'est rendu le running gag maintenant, on part un...
Moi, ce que je dis, c'est que moi, j'ai peur d'avoir... Moi, j'ai une arme à feu, mais j'ai peur d'avoir une piscine parce que j'ai des jeunes enfants. Puis moi, ça m'a tout le temps fait peur, ça, cette histoire-là. Puis les gens disent, mais c'est pas pareil parce que, tu sais, une piscine, c'est une piscine, là. C'est pour le plaisir. Ben, c'est parce que moi, dans ma vie à moi, c'est plus important de pouvoir défendre ma famille que d'avoir du plaisir. Mais ça, les gens comprennent pas ça, tu sais.
Mais oui. Mais regarde, là, je regarde, il va falloir arrêter cela, ma chère Jessie, ce fut très agréable. Puis on va essayer de se reprendre, puis voir encore, là, peut-être au cours des prochaines semaines, là, avoir ton opinion par rapport à la politique. Il y a peut-être quelque chose, un rebondissement qui risque d'arriver, quelque chose de surprenant qui va changer. Mais moi, j'ai une petite idée que le 7 avril prochain, c'est déjà joué. On sait que Mme Pauline Marois, ou moi, du moins, j'ai une petite idée que Pauline Marois va être de nouveau couronnée reine du Québec. Mais qui sait, peut-être que les choses vont changer d'ici temps-là. Fait qu'on va se reparler, puis on fait une petite pause, là. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Sinners crawl, so they dug your grave, and the masquerade will come calling out at the mess you've made.
Vous êtes entrepreneur et vous avez une vision planétaire? Les gens chez eVision Expert vous aideront à vous faire connaître à travers le monde. Gestion de réputation en ligne, référencement, conception et réalisation de sites Internet, pour que vous puissiez vous concentrer à ce que vous faites de mieux. eVision Expert, 1-866-623-2532.
De retour sur Deux filles en liberté, c'est le fun de voir des sons-cloches différents, des blogueurs du même journal, mais tu sais, complètement différents. Puis je trouve ça super bien, dans le fond, qui donne une tribune à des gens qui pensent vraiment à l'opposé, tu trouves pas?
Ben, la diversité, c'est ça qui fait que les gens sont capables de se faire une bonne, d'avoir une bonne façon de voir les choses, puis d'arriver avec leur propre idée, puis de décider. Parce que justement, c'est ça que je reproche, puis ce qui me fait peur avec le Journal de Montréal, TVA et tout ça, qui appartiennent toutes à la même personne, ben moi, ce que je crains, c'est qu'on risque d'arriver avec des nouvelles qui sont toutes pareilles, qui ont toutes le même son de cloche, et finalement, les gens ne vont pas faire autre chose que de suivre la même pensée, la ligne de
Puis,
pensée.
Ça va exactement donner comme Jessie disait, c'est-à-dire qu'on arrive avec des, on arrive nous autres avec une conception de ce qui est la liberté puis tout ça. Puis les gens sont là, ils ont jamais pensé à ça de leur vie. T'arrives avec une espèce de truc qui est même pas du tout d'actualité comme elle expliquait pour l'école à la maison. Donc c'est vraiment ça, c'est que t'es tellement habitué de penser selon une espèce de format là, québécois, le petit guide du citoyen québécois parfait, là, que tout ce qui sort de l'ordinaire, qui est à l'extérieur de ça, ben c'est Ben voyons, je savais pas que ça existait, tu sais. Mais je trouve ça bien de voir qu'à l'intérieur d'un même journal, tu vas avoir un et l'autre, tu vas avoir des gens qui sont quand même, tu sais, parce qu'on s'entend-tu qu'ils disent vraiment des choses différentes, là. On nous disait la semaine dernière que le Québec était riche, oui. Que le Québec était riche, puis tantôt on parlait justement de la dette, la grosse dette du Québec, puis comment qu'on pourrait faire pour s'en sortir si c'est même possible, tu sais.
Oui, exactement. Puis moi, c'est ça aussi, l'autre chose, ce que je crains, puis ce qui va être à observer au cours des prochaines semaines, c'est comment les médias, parce qu'on sait à quel point ils sont biaisés dans la même direction, la plupart des médias principaux, là, je fais référence à Radio-Canada, à TVA, LCN, toutes sortes et toutes, là, ils ont tous le même penchant. Je suis curieuse de savoir comment ils vont appréhender justement cette arrivée-là de PKP dans l'univers. Jusqu'à maintenant, là, on dirait qu'il n'y a pas de challenge qui est fait. J'ai même observé que même au point de vue de la les élections, il n'y a aucun challenge qui est fait. Marois refuse obstinément de s'adresser au public ou devant les médias. Elle trouve toujours des façons de détourner l'attention. Elle a eu une bonne façon de le faire en ce moment. Puis en plus de ça, concernant les débats des chefs, c'est à sa façon. Écoute, ça tourne. Ça me fait vraiment peur parce que là, ça se radicalise de plus en plus. Puis là, on parle tout le temps que c'est tout le temps la droite qui est radicale. Mais moi, je suis en train de voir vraiment une gauche ou une... Je sais pas comment un gouvernement de plus en plus interventionniste et contrôlant, puis je suis pas convaincue que les gens réalisent ça. Est-ce que je me trompe?
Ben, je pense que c'est le mood de la place. C'est que c'est les gens qui le demandent. Tu sais, j'écoutais des publicités de Québec solidaire, oui, pour la campagne électorale. Puis ça disait, écoute, on nous a promis, le parti québécois nous a promis des programmes sociaux. Puis là, tout ce que je remarque, c'est qu'il y a juste des coupures. Puis tu sais, je me dis, ben voyons donc, c'est que c'est, on peut plus en avoir. À un moment donné, on est à la limite de ce qu'on peut vous offrir avec les ressources qu'on a. Mais non, il arrive encore en demandant. Et les gens sont comme ça, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais les Québécois sont très, dès qu'il y a un petit problème, dès que quelque chose qui font pas leur affaire, ils vont se virer de bord, ils vont dire, ils vont regarder le gouvernement, on dit, bon, c'est quand tu vas m'aider, là, tu sais, fait que si t'as plus de job, écoute, tu vas te tourner vers le gouvernement, puis là, c'est la faute du gouvernement, c'est le gouvernement qui t'offre pas assez d'emplois, c'est le gouvernement qui va te mettre des bâtons dans les roues, qui va pas te donner de l'argent pour aller étudier gratuitement, tu sais, c'est la faute du gouvernement. Si t'as pas de place en garderie, ben écoute, c'est ta faute, c'est pas de ta faute, c'est la faute du gouvernement si tu peux pas envoyer ton enfant quelque part, donc tu peux pas travailler. C'est toujours la faute du gouvernement, toujours.
Mais le plus drôle, c'est que c'est la faute du gouvernement, mais c'est où qu'on va chercher la solution? Chez le gouvernement. Fait que c'est ça l'incohérence. C'est un peu comme l'année passée, où il y a 2 ans, le printemps des érables, où est-ce que on s'attaquait au gouvernement pour la hausse des frais de scolarité, mais en même temps, on demandait encore plus du gouvernement. Fait que c'est là que je te dis, ça marche plus, et il va arriver un moment où est-ce que ça va exploser, que les gens vont devoir sortir de leur bulle, et ça va faire mal pour plusieurs personnes. Mais j'ai l'impression que ça va pas arriver tout de suite, là. J'ai l'impression qu'on va encore nous servir le fameux Kool-Aid bleu, rouge, jaune ou vert. Puis les gens vont continuer à boire ça, puis ils vont continuer à... tu sais, j'ai une expression qui est un peu vulgaire, mais à se faire enculer à petite dose, puis jusqu'à temps où est-ce que ça soit enough, it's enough.
Et là, c'est pas grave, ouais, c'est ça, c'est pas grave, ça fait pas trop mal. Juste un petit peu.
Mais je veux juste...
Ça chatouille.
Ouais, je vais revenir vite, là, à ce qu'on a discuté avec Jessie, parce que j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis, j'essaie pas d'argumenter, puis souvent, c'est ça, c'est qu'on pense que des personnes comme toi et moi, étant donné qu'on vient d'un univers où est-ce que la droite conservatrice, la droite constitutionnelle et la mouvance libertarienne, c'est une mouvance qui est établie depuis un certain temps, Puis d'autant plus, c'est établi, je te dirais que ça fait là depuis au moins 5-6 ans où est-ce que là, c'est vraiment sûr, depuis qu'on a créé le fameux Tea Party, là, tu sais, il y a la mouvance est connue à travers les États-Unis, puis on sait, on ne craint plus le Tea Party. On le critique, on veut l'aliéner, on veut le détruire, mais on ne craint plus cette mouvance-là. Je comprends qu'au Québec, on n'est pas encore rendu là. Puis je comprends que c'est pas le rôle d'un parti politique comme le PCQ à promouvoir une vision un peu plus radicale de la chose. Mais moi, je continue à croire que l'erreur du PCQ, c'est d'avoir aliéné justement cette petite cellule un peu plus radicale qui aurait pu être plus animer la droite. Puis, c'est là que j'ai de la misère. Je sais pas si tu me suis, là.
Ben, tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment... Puis, oui, je comprends très bien ce que tu dis. Je comprends très bien. Puis, c'est vrai que un parti n'a pas le temps de faire ça. Il va y aller avec le peuple, dans le fond. On va dire, écoutez, voici notre programme, puis ils vont un peu s'adapter. Ça va. Sauf que au Québec, ça prend... Aux États-Unis, on a le Tea Party, qui est un groupe d'activistes, si tu veux, qui vont à eux-mêmes essayer de changer la mentalité de tous et chacun. Au Québec,
Il n'y en a pas de mouvement comme ça.
Il y a un mouvement qui existe, qui est le Réseau Liberté Québec.
Mais c'est pas
qui est un mouvement. Ouais.
À la base, je pensais que c'était ça que ça allait créer. Et je pense qu'à la base, c'est un peu ça qu'il voulait créer. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs gens de différences. Tu sais, quand on parle de la droite, les valeurs de la droite, c'est pas unifié. C'est pas comme la gauche. La gauche, là, c'est vraiment comme une espèce de bloc d'idées, puis tout le monde croit à ça. La droite, justement, étant donné qu'on valorise les valeurs individuelles, puis c'est plus libre, justement.
Ben, c'est ça. C'est parce que ta gauche, elle a une idée commune.
Oui.
Donc, c'est facile, c'est commun. C'est une idée généralisée pour chacun, pour tout le monde, en fait.
Oui.
La droite prône la liberté individuelle. Il y a énormément de différences entre ta liberté à toi, puis ma liberté à moi, puis même encore, on a de la difficulté à s'entendre, toi puis moi. Fait qu'imagines-tu, dans un gros lot? Fait que c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'unifier un groupe comme ça, parce que là, on pense tous différemment.
Puis c'est ça que je reprochais au RLQ, c'est qu'à la base, je pense qu'ils voulaient rallier tout le monde, chose qui s'est fait au début, mais tout de suite sont arrivés et disent, nous ne sommes pas un groupe de droite religieuse. Ça a été là, bang, tout de suite dès le départ. Fait que déjà, ils ont voulu, déjà la droite religieuse, j'ai beaucoup de misère à croire qu'elle existe réellement au Québec. Il y a des gens qui peuvent avoir des valeurs conservatrices au point de vue moral, mais me dire que la droite religieuse existe au Québec, ça, je n'y crois pas. Écoute, on est entouré, et même ici aux États-Unis, je veux dire, il y a certaines personnes qui sont très, très pointilleuses sur les valeurs morales et religieuses et tout ça, mais imposer, non, moi, je l'ai jamais connu comme tel. On peut faire un débat là-dessus, mais déjà, quand ils ont commencé le RLQ, ils ont toujours, tout de suite, aliéné ce groupe de personnes-là. Puis après ça, ils ont commencé à s'attaquer aux valeurs libertariennes, aux valeurs morales libertariennes, les gens qui prônaient justement un peu plus, là, tout ce qui concerne les droits fondamentaux, dont les armes à feu, il y a une clique qui a comme dit non, on veut pas se mêler ça. Puis là, c'est comme ça a viré à la droite québécoise, à tranquillement devenir la droite économique québécoise.
Mm-hmm.
Puis ça s'est de plus en plus centralisé, ça s'est amené vers le centre pour avoir le plus de gens possible. Et là, ça s'est comme mélangé une espèce de droite interventionniste, puis là, t'avais des gens qui n'étaient pas interventionnistes, puis là, ça chicanait, puis tout ça. Puis c'est là que ça n'a pas tenu.
Puis il manque énormément de cohérence, c'est-à-dire que on va dire, on n'est pas pour les programmes sociaux, mais après ça, on va défendre ces programmes. On va dire que, mettons, un exemple, CHSLD, on ne croit pas, nous, en tant que libertariens, on ne croit pas que ça devrait venir de l'État, mais eux vont demander à l'État d'améliorer ce service-là. Fait que, tu sais, il y a une incohérence qui se porte. Un autre exemple, c'est la liberté d'expression.
Exactement.
On va dire que les libertariens, nous, on est pour la liberté d'expression. Dans n'importe quel cas, on est pour la liberté d'expression. Puis ça, c'est difficile à appliquer parce que des fois, ça va nous toucher. Tu sais, des fois, c'est bon, quelqu'un va dire quelque chose, puis ça nous touche pas vraiment. Ça peut toucher d'autres personnes, mais nous, personnellement, ça ne touche pas. Fait qu'on a comme moins le goût de s'impliquer. Mais dès qu'on va parler, tu sais, si je te parle de ta famille, de tes enfants en mal, ça se peut que tu jumpes, tu dises oh, non, t'as pas le droit de le dire. Sauf que faut que tu te remettes dans le contexte, tu dis OK, bon, écoute, il a le droit de le dire. J'ai le droit de pas accepter qu'ils le disent, mais il a le droit de le dire dans le fond de l'autre côté. Puis là, il y a eu un bel exemple la semaine dernière au Québec. C'est un humoriste, puis j'ai eu ça de parler, je veux même pas y faire de publicité, là, OK, mais je veux parler du cas, c'est un humoriste qui fait de l'humour noir sur des comme n'importe qui peut en faire, parce que n'importe qui peut avoir une tribune maintenant sur le net, tu peux avoir un show de radio comme le nôtre, on peut avoir des vidéos YouTube, tu peux avoir n'importe quoi, tu as une tribune. Tu peux parler à plusieurs personnes, puis si ce que tu dis a de l'allure, ou si ça rejoint d'autres personnes, ben tu vas avoir des gens qui vont t'écouter, qui vont te lire. Donc, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est une tribune. Et ce gars-là écrit des textes qui sont vraiment, là, carrément. Moi, là,
c'est
j'ai trouvé.
C'est très grossier.
C'est très grossier, pas drôle du tout. Écoute, moi, j'ai pas ri, là. Écoute, c'était l'horreur, là. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il y a il y a une comédienne, au Québec qui s'appelle Marie-Lou Wolfe. Mm-hmm. Et, elle s'est séparée d'avec
son conjoint.
Avec son conjoint, oui. Et lui a dit, écoute, il a écrit un texte qui décrivait, écoute, moi, voici comment moi je te ferais l'amour. Puis il a décrit un peu ce qu'il ferait. Et c'était carrément un viol, OK? Oui. Bon. Au début, ça commence léger, puis à la fin, ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, puis oui, c'est choquant. C'est pas le fun. Tu sais, j'aimerais pas ça que quelqu'un écrive ça sur moi. Ils peuvent bien le faire, là, je veux dire, je n'aurais pas poursuivi la personne pour autant, mais c'est pas le fun à lire. Puis même, j'ai lu des textes qu'il avait écrits, qu'il avait lus en public, comme même genre de texte, mais pédophile, c'est-à-dire qu'il décrivait des actes qu'il ferait qui sont carrément pédophiles parce qu'il décrit des relations sexuelles avec un enfant. C'est carrément dégueulasse, OK? Et il y avait des gens dans la salle qui riaient de ça, là. Il y a plusieurs personnes qui trouvaient ça bien, bien drôle, là. On lui transperce l'hymen, c'est okay. Très drôle, OK? Ben, écoute, moi, là, je l'ai vu, le gars, il s'est défendu sur toutes les tribunes au Québec. Oui. Je l'ai vu à plein d'émissions, puis le point est que le gars, il a le droit de dire ce qu'il veut. Le gars, là, il s'est mis bien plus dans le trouble en faisant ce qu'il a fait que le 300 000 $ qui lui est réclamé.
Exactement, oui.
Fait que lui, là, moi, là, si j'avais une business au Québec, tu l'engagerais-tu, toi? Moi, je l'engagerais pas.
Ben, en fait, c'est pas juste une business au point de vue de la vie publique, là, privée. Cet homme-là, il m'a dit, si il est voisin à un endroit quelconque, les gens vont le reconnaître. Les gens parlent entre eux. Le gars, il s'est étiqueté, il s'est mis sur la liste des pédophiles sans libérément. C'est comme si c'était mis là, allô, bonjour, je m'appelle, je suis un pédophile et je le dis ouvertement à tout le monde. Il l'a mis sur la télé, il a mis sa face partout.
Oui.
Il essaye de se défendre les défendables dans toutes les stations. Maintenant, tout le monde va reconnaître ce gars-là. Puis laisse-moi dire, les chances qu'il puisse gagner en crédibilité, c'est fini, là.
Ben, tu sais quoi, moi, je trouvais ça un petit peu spécial parce que quand j'ai vu les gens qui réclamaient que ce gars-là, écoute, soit, tu sais, disparaisse, tu sais, il y a vraiment des gens qui veulent contrôler l'Internet, là, puis c'est pas des jokes, là, c'est vraiment vrai. Ils disent, écoute, ils devraient pas écrire ça, c'est pas correct. Moi, j'ai dit, écoute, moi, je suis contente que ces gens-là s'affichent comme ça aussi facilement. Ça veut dire qu'il y a une étiquette pour moi, je suis contente de le savoir, fait que je ferais pas affaire avec ce gars-là. Si c'était mon voisin, j'aimerais savoir que mon voisin, c'est un pédophile. pédophile ou que c'est une personne qui est entre les deux oreilles, là, ça marche pas. Fait que ça se peut que c'est pas la première personne à qui je demanderais de l'aide, là, si j'en avais besoin. Fait que, tu sais, je trouve pas ça mauvais. Je trouve ça dégueulasse, comme je dis, ce qui est écrit. Je suis vraiment pas, je suis en désaccord profondément avec le personnage. C'est pas de l'humour du tout. Et la seule personne qui a mis dans le trouble là-dedans, c'est pas Mary Wolfe. Mary Wolfe, demain matin, tu sais, c'est pas comme s'il avait dit Mary Wolfe, écoute, je l'ai rencontrée hier, elle est en train de faire de la prostitution sur la rue Sainte-Catherine, puis bon. Ouais. C'est puis de décrire un acte illégal, c'est pas ça.
Il n'a pas fait de la diffamation envers elle.
Il n'a pas fait de diffamation.
Il n'a pas agressé quelconque ou menacé ou quoi que ce soit. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrit. Mais je comprends. C'est pour ça que c'est ambivalent, mais je comprends ton point. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que dans toute l'histoire, la personne qui s'est entachée, qui s'est vraiment là. Puis l'a échappé, c'est ce crétin-là, parce que c'est un crétin. Puis laisse-moi dire, sa vie, si elle n'est pas finie, il va avoir de la misère à récupérer de l'attention. Là. C'est parce que je pense que... Puis les gens, il va toujours avoir un petit groupe de personnes qui vont continuer à le défendre, puis à rire de lui, à rire avec lui, puis à trouver ça intéressant. Mais je pense...
Parce que tu sais, quand on parle de la loi du marché, là, on parle de la loi du marché quand on achète des trucs, puis on se dit, bon, mais mettons, si je suis pas contente à cet endroit-là, puis j'ai eu une mauvaise expérience, ben je vais la partager avec plein de monde, puis les gens iront pas là-bas parce qu'ils me font confiance à moi. Puis finalement, la business, si elle fait ça avec plein de monde... Elle va finir qu'elle n'aura plus de clients, donc elle va faire faillite. Donc, c'est la loi du marché. La loi du marché, elle s'applique aussi aux gens. Hein? Donc, si toi, là, en tant qu'employé, t'es vraiment pas bon, puis écoute, à chaque endroit où tu vas, tu fous la bisbille, puis tout ça, ça va se parler dans le milieu, puis éventuellement, t'en auras plus de job. Donc, tu fais ta propre réputation. Même chose pour lui, il s'est foutu dans la merde. Il va avoir de la difficulté à s'en sortir, mais tu sais quoi? Ça, là, lui, ce gars-là, je le connaissais pas avant, il y a plein de monde probablement qui avait jamais entendu parler de ça. Il savait pas que le gars qui écrivait des textes comme ça, il y avait juste ses lecteurs. C'est comme un petit groupe, si tu veux. Donc, ça fait un petit bout qui run sur ces mauvaises jokes-là, son humour noir, sans vraiment que ce soit ébruité dans les médias traditionnels. Sauf que, écoute, c'est arrivé, c'est là, puis j'ai l'impression que peut-être qu'il va se tenir tranquille, parce que là, il est surveillé. Il l'était peut-être pas avant. Là, il est surveillé. Il n'y aura pas le choix.
C'est surtout ça. Surveillé au point de vue, la société le surveille maintenant. Puis même, je veux dire, au point de vue criminel, avoir des idées comme ça peut amener à des suspicions.
Il y a une petite fille en plus.
Pardon?
Il y a une petite fille.
Ah, imagine. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est qu'il faut, je veux dire, je pense...
Non, mais faut-tu être assez fou dans la tête pour décrire des trucs sexuels avec un enfant quand tu as toi-même un enfant, sérieusement. Là.
Ben, regarde, ça, c'est bon. Ça demande peut-être d'avoir une étude sur son cas en tant que père. Je suis même pas en train, je peux pas évaluer, je le connais pas assez, mais j'ai l'impression que peut-être son cas est déjà pris en main, puis il y a déjà peut-être une enquête sur son dos. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai aucune idée si la... j'en ai un qui parle ici. Je sais pas si, à quelque part, ça va rapporter cette espèce de procès-là. Moi, j'ai l'impression qu'on va encore tomber dans l'histoire un peu comme ce qui est arrivé avec Jeff Fillion il y a quelques années. Mais regarde, je regarde, c'est temps de se laisser.
Déjà?
Ben oui, c'est parce qu'on a tellement parlé les deux premiers segments que là, on peut pas continuer, puis on va se faire couper, là, comme c'est déjà arrivé. On va continuer la conversation la semaine prochaine. D'ici ce temps-là, ben, prenez ça cool, puis bon week-end!